Voilà, donc l'habitation de l'esprit, un enseignement largement développé dans le Nouveau Testament. Et si on reprend notre lecture sur l'habitation de l'esprit dans le croyant, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, c'est là qu'on a de nouveau la nouvelle identité, le nouveau guide intérieur, bien sûr, à condition d'être de lui. Donc le si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, plusieurs fois dans le Nouveau Testament, cette traduction, si du moins, peut être remplacée par puisque, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Ça, c'est pas pour créer le doute, mais par contre, ça montre bien que c'est la condition, c'est normal, c'est la suite normale. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, alors évidemment, vous n'êtes pas dans la chair, mais vous êtes dans l'Esprit. C'est une nouvelle identité, un nouveau guide intérieur. Et la suite du texte, c'est si le Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché. Alors, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc, j'ai mis en couleur, bien sûr, les parallèles. C'est pas tout à fait un chiasme, mais le corps s'oppose à l'esprit, mort à la vie, péché à la justice. Donc, comment on comprend ce verset-là? Hein, le corps est bien mort. Si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alors, le péché produit la mort du corps. C'est la base. C'est comme ça que la mort est intervenue dans le monde suite au péché. Le Christ est mort sur la croix à cause du péché qu'il a porté. Donc c'est bien à cause du péché qu'il est mort. Et nous sommes morts avec lui, enseignement déjà dans le chapitre 6. Il nous représentait, c'était la substitution. Et nous sommes au bénéfice de sa part. Le corps est bien mort. La justice a été déclarée par, la justice a été déclarée par cette œuvre, puisque c'était une œuvre de substitution. Jésus est vivant de nouveau, il a été ressuscité. Le croyant est vivant avec lui. L'esprit habite dans le croyant et c'est l'esprit de vie. Il est vie lui-même, il est source de vie et il est le guide de la vie nouvelle. Donc l'esprit, guide de la vie nouvelle, puissance de vie, grâce à la justice qui a été déclaré, eh bien, est notre nouvelle puissance de vie. Quant au corps, eh bien, il est mort à cause du péché, donc le péché a été la source de la mort, mais le Christ a pris cette mort, nous sommes morts avec lui et nous sommes au bénéfice de ça. Si on continue, mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. Donc, ressuscité, ressuscité, vivifié. On a ici puissance de vie, hein, celle qu'on vient de voir, l'esprit est vie, cette puissance de vie va s'appliquer aussi à nous-mêmes. L'expression vivifiera vos corps mortels. On pourrait dire s'il est mortel, c'est qu'il n'est pas encore mort. Donc, premièrement, on pourrait être tenté d'appliquer vivifiera vos corps mortels, eh bien, à ce qu'on appelle la transformation des vivants au retour de Christ en une personne immortelle. Le mortel devient immortel, 1 Corinthiens 15. Mais on peut penser que ça s'applique de façon générale, à la fois aux morts ou aux vivants à la venue du Christ. Parce que les vivants, eux, seront transformés en immortels. Et les morts qui étaient j'ai dit mort et enterré, on va dire, et qui étaient donc sujets à la décomposition, eux vont être transformés et vont être régénérés, vont être ressuscités. Donc, que le corps soit déjà mort ou qu'il ne soit pas encore, il a besoin de la vie. Et il a besoin d'être, de recevoir cette vie. Donc, nos corps mortels reçoivent la vie, valable aussi bien pour les vivants que pour les morts, à la venue du Seigneur. Je rappelle ici un point qu'il faut toujours avoir en tête, si on regarde un petit peu depuis le début de l'histoire de l'Église, il y a à peu près autant de vivants aujourd'hui que ce qu'il y a eu de morts depuis le début de l'histoire. Hein, si on fait la somme de tous les morts, c'est à peu près le même ordre de grandeur que la somme des vivants actuels. Donc il y a vraiment deux familles. À la venue du Christ, il y a deux familles. Il y a les vivants et les morts. Et ces deux familles qui sont... J'en sais rien, c'est à poids égal, bien sûr, le Seigneur le sait. Mais il ne faut surtout pas croire qu'il y a 98% de morts et puis il y a 2 petits % de vivants qui auront la chance de vivre le retour du Seigneur. Mais pas du tout. C'est deux populations de taille, on va dire, comparable. Alors, la puissance de résurrection du Christ, qui a été fait par Dieu, mais aussi par l'Esprit, se déploie pour le croyant, parce qu'il est au bénéfice de la justice mentionné plus haut, et parce que l'Esprit habite en lui. Ce qui fait qu'on a dans notre passage un lien entre notre propre résurrection et celle du Christ. Ouh là là, mais ça veut dire que c'est un passage fondamental de nouveau. Vous imaginez si notre propre résurrection est liée à celle du Christ, c'est que c'est de l'enseignement très très important qu'on a ici. Et ça nous permet de rappeler quels sont les acteurs de la résurrection du Christ. Le Christ a été ressuscité par Dieu. Dieu l'a ressuscité au troisième jour. Il a été ressuscité par le Père, par Jésus-Christ, et Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Il a été ressuscité par la gloire du Père, ressuscité par le Saint-Esprit. Christ a souffert, ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'Esprit. Et ressuscité par lui-même, à cause de ceci le Père même, c'est que moi, je laisse ma vie afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte, mais moi, je la laisse de moi-même. J'ai le pouvoir de la laisser, j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc, ressuscité par Dieu, ressuscité par le Père, par la gloire du Père, par le Saint-Esprit, par lui-même, cinq acteurs de la résurrection. Et notre résurrection est liée à celle du Christ. Donc très très important. Voilà, on a déjà donc vu l'introduction et les deux premières parties, et maintenant la troisième partie pour ce soir, et ce sera la fin, l'adoption. À partir du verset 12, nous continuons la lecture. Romains 8, verset 12. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas envers la chair, pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. On est donc passé dans le chapitre de l'adoption, dans le paragraphe l'adoption. Et j'ai voulu le séparer de l'habitation parce que, voilà, je trouvais que c'était quand même deux notions différentes. Mais évidemment, on aurait pu se dire où est-ce qu'on va couper? Où est-ce qu'on va couper? Parce que le ainsi donc, frère, nous sommes débiteurs, ah, ben ça, forcément, c'est très, très, très lié à ce qu'on vient de lire. Mais comme c'est lié aussi à ce qu'on a lu après, eh bien, voilà, on l'a coupé ici. Parce que ça s'accroche, en fait, là aussi. Donc, d'abord, on voit dans la deuxième partie du texte tout le vocabulaire de l'adoption. C'est pour ça que le chapitre s'appelle l'adoption. Donc, il parlait d'un fils, adoption, abba père, enfant, enfant, héritier, héritier, co-héritier. Voilà, vous le voyez, c'est en vert, c'est le sujet là, c'est l'adoption. Il n'y a pas de doute. Donc, le petit doute qu'on aurait pu avoir, c'est qu'est-ce qu'on fait du verset 12 et 13? Est-ce qu'on les raccroche au fait que l'Esprit habite en nous? Mais il y a ce verset 14. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils. Or, le fait d'être conduit par l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est justement cette vie victorieuse qui fait que on va pouvoir vivre et ne pas mourir. Donc, voilà pourquoi je les ai groupés comme cela, mais vous comprenez que il y a bien d'autres façons de le grouper. Alors, comment commence notre paragraphe avec nous sommes débiteurs? Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs. Donc, quand on est débiteur, c'est qu'on doit quelque chose. Tout a été payé pour nous. En fait, la vie de pureté, de sainteté par l'esprit, est la suite naturelle de notre nouvelle identité. Donc, en fait, nous sommes débiteurs. Parce que tout a été payé pour nous. Mais on n'est pas débiteur envers la chair. On l'est envers le Christ. On l'est envers le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit. Parce que justement, c'est discret. C'est sous-entendu. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas envers la chair, pour vivre selon la chair. Et on s'attendrait à la suite de la phrase. Eh bien non, c'est pas dit, parce que c'est discret, parce que on n'est pas obligé au sens de de cette force dont on parlait tout à l'heure, que le Seigneur nous met dans la servitude pour être vivre par l'Esprit. Non, mais par contre, tout a été payé pour nous, et c'est la suite normale de notre nouvelle identité. Nous sommes débiteurs. Mais on n'est pas débiteurs envers la chair. Parce que la chair, elle, ne nous a jamais rien apporté. Donc, on lui doit rien. Nous n'avons rien à lui rendre. Et elle n'a plus de pouvoir, plus d'autorité. Nous sommes rachetés, libérés. Et donc, ce qui est très important, c'est que la vie de sainteté est parfaitement possible. Le péché est totalement évitable. Ça, c'est très important. On va tomber, oui, et on se relève. Mais on n'est pas du tout esclave. On est au contraire libéré. Donc, on n'est pas obligé de tomber, pas du tout. La vie de sainteté est parfaitement possible. On n'est pas débiteur envers la chair. Et le péché est totalement évitable. C'est aussi ce qu'on a dans la première épître de Jean, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez pas. Voilà. Ça ne veut pas dire que, qu'il n'y aura pas des chutes, mais on comprend la puissance de vie, d'une vie animée par l'esprit, une vie qui est vécue, hein, pour vivre. Vous vivrez. Voilà, c'est une vie en abondance. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ah, ça veut dire quoi ça? Alors, de nouveau, les couleurs, c'est pour rappeler les parallèles. De nouveau, presque un chiasme, mais pas tout à fait. On commence par vivre, ça va avec vivre. La chair, ça va avec l'esprit. Mourrez, ça va avec mourir. D'accord? Donc, ça, c'est la structure du verset. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une vie qui suit les désirs de l'homme pécheur mène à la mort spirituelle de la relation avec Dieu et peut mener à la mort prématurée du corps. Donc l'enseignement là, c'est que le péché n'est jamais sans conséquence. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, vous serez sur un chemin de mort, puisque vous allez ressembler à celui du paragraphe de tout à l'heure qui était selon la chair et dans la chair. Donc vous êtes sur le même chemin que lui. Et maintenant, on parle à des croyants. Donc si vous vivez sur le même chemin que celui qui est mené par la chair, eh bien, vous mourrez. Ça tuera votre relation avec Dieu, peut-être avec d'autres personnes aussi, et puis ça peut mener à la mort prématurée du corps. Si on regarde Luc 15, le fils prodigue peut s'appliquer au pécheur qui se repent, mais c'est une application. L'interprétation du fils prodigue, c'est que c'est quand même un fils. Il est fils, et il s'est éloigné, il est même héritier, puisqu'il demande l'héritage. Il est fils, il s'est éloigné et il revient. Donc c'est le retour d'un fils. Et ce fils, qu'est-ce qu'il est dit? Voici, il était mort. Et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Donc le papa ici prononce des mots très très forts sur le fils parce qu'il était sur ce chemin de mort. Mais maintenant qu'il est revenu, eh bien sûr, il a retrouvé sa vie. Le chemin dans lequel il était un chemin de mort qui conduisait à la mort, mais il en a été tiré par l'action de l'Esprit dans son cœur. On a aussi des enseignements du Nouveau Testament, ici on ne va pas commenter l'intégralité de ce verset du 1 Jean, mais pour montrer qu'il y a aussi, si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché qui ne soit pas à la mort, il demandera, il lui donnera la vie, c'est-à-dire à ceux qui ne pêchent pas à la mort. Mais s'il y a un péché à la mort, pour ce péché-là, je ne dis pas qu'il demande. Donc, on a des cas de vie dans le péché où un croyant s'est laissé emporter et ce péché va le conduire à une mort prématurée qui sera soit la conséquence, on va dire, directe, malheureusement, de son péché. Si quelqu'un est, je sais pas, très, très violent et se met à tuer des gens, eh bien, il va peut-être lui aussi prendre une balle, hein, pour prendre cet exemple. Hein, ça peut être d'autres exemples. Donc, il y a des péchés qui peuvent conduire à la mort prématurée, qui peut aussi être une mort, on va dire, de discipline de Dieu, hein, comme on pouvait le lire dans, au moment de la scène, justement, ceux qui dormaient à Corinthe parce qu'ils mangeaient le pain et le vin de façon indigne, et donc Dieu avait fait en sorte qu'ils soient morts. Donc ça, c'était le cas extrême, bien sûr, d'une discipline de Dieu, quand un chrétien vit une vie dans le péché et ne s'en sort pas, ne revient pas, comme le fils prodigue. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors, c'est quoi les actions du corps? En fait, c'est par des actes que les péchés sont rendus visibles. On sait qu'ils ont leur source dans nos pensées. On l'a dit tout à l'heure, le Seigneur Jésus l'enseigne dans les évangiles, c'est très clair, ce n'est pas ce qui sort, qui rentre dans l'homme, qui le souille, mais c'est ce qui en sort. Donc, c'est le fond. Notre propre fond produit les pensées initiales, mais il y a quand même une différence entre avoir des pensées malsaines, mauvaises, et les pratiquer. Et les actions du corps, c'est le moment, malheureusement, où la pensée mauvaise va se traduire par une action du corps, par une parole méchante, par un acte de violence, par une fausse signature pour voler de l'argent ou tromper le fisc, par une relation sexuelle en dehors du mariage. C'est le corps qui va rendre visible, malheureusement par des actions, ce qui, initialement, était peut-être seulement au fond de notre cœur. Et il y a on peut faire mourir les actions du corps, on ne peut pas bien faire mourir les pensées, c'est difficile, hein, mais les actes, eux, ils peuvent mourir au sens que par l'esprit, eh bien, on peut renoncer aux actions du corps, hein. Et si on continuait la comparaison du couple, si dans un couple me vient des pensées qui serait de ne pas être fidèle. Malheureusement, c'est triste, bien sûr, et donc il faut les juger. Mais il y a une grande différence entre avoir des pensées et ensuite le pratiquer, hein, la fameuse ligne rouge. Donc, par l'esprit, eh bien, on va faire mourir les actions du corps, on va renoncer, totalement renoncer, par amour pour son conjoint dans ce cas-là, par amour pour le Seigneur, on renonce à ce qui, finalement, consomme, caractérise, rend visible le péché. Alors, en effet, donc la suite, c'est le verset 14, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. On est conduit, ça c'est un vocabulaire de berger. Le bon berger nous conduit dans la vérité, hein, le Saint-Esprit nous conduira dans la vérité d'après Jean 16, et le Saint-Esprit nous conduit dans la sainteté, dans notre chapitre, et puis aussi ailleurs dans le Nouveau Testament. Mais il nous conduit. C'est comme un berger. Il nous, c'est pas imposé. C'est pas un asservissement. C'est une conduite. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Ah, donc là, on a ce qu'on appelle condition nécessaire, et ensuite on aura la condition suffisante. On a le fait que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils. Ah! Donc, si je suis conduit par l'Esprit de Dieu, eh bien, je suis fils. Et puis, la réciproque, c'est que si vous êtes fils, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant Abba Père, Galates 4. Ah, parce que je suis fils, alors j'ai l'Esprit dans mon cœur. Et là, parce que l'Esprit me conduit, alors je suis fils. Ah, donc on a une équivalence, on a une égalité, ça va ensemble que d'avoir l'esprit, donc l'habitation, et là on va arriver à l'adoption, être fils, donc être fils de Dieu, avoir l'adoption et avoir l'habitation de l'esprit, eh bien ça va ensemble. Être fils, c'est avoir l'esprit de Dieu. Avoir l'Esprit de Dieu, c'est être fils. Donc, c'est avoir ensemble. Ce qui fait que d'ailleurs, ça explique aussi que certains commentateurs ont mis ensemble ces deux parties, hein, adoption et habitation, ça va ensemble. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, voilà, pour être de nouveau dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption. Donc, la conduite par l'esprit n'est pas une servitude et n'est pas une source de crainte, mais c'est une relation. C'est un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. 2 Corinthiens 3, là où est l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Donc, ce n'est pas la servitude. On est obéissant au Seigneur, on vit par l'esprit, mais par relation. Par amour, pas par servitude et pas avec de la crainte. Donc, on n'est pas en permanence dans l'introspection, d'avoir peur de s'être trompé, d'avoir peur d'avoir mal fait. Tout ça, c'est de la crainte. Mais si on a cet esprit d'adoption, c'est la confiance. Si on repense au fils prodigue, il croyait pouvoir être serviteur. Hein, il s'était mis dans la tête de rentrer chez son papa et de demander pardon, mais de proposer d'être serviteur. Mais c'est impossible, parce qu'il est reçu comme un fils. Et nous aussi, nous sommes reçus comme fils. Il n'y a pas de servitude, c'est de la liberté. Il n'y a pas de crainte, c'est la confiance du fils à son père. C'est pour ça que cette adoption, le fait d'être fils, ça va avec le fait qu'il n'y a pas de crainte. On est dans une relation. Et puis ce mot Abba, qui est donc trois fois dans le Nouveau Testament, il est dans Galates, qu'on a lu juste avant, il est ici, et en fait, il va être apporté par Marc. au chapitre 14. Mais vous vous rappelez bien sûr que Marc, l'évangile de Marc a été écrit après l'épître aux Romains. L'évangile de Marc a été écrit, comme tous les évangiles, enfin comme les trois premiers, comme les synoptiques, plus tard que les premières épîtres. Mais par contre, le fait que l'apôtre ici nous cite le Abba Père, ça c'est touchant, parce que ça veut dire que la prière du Seigneur Jésus dans Gethsémané, qui est rapportée dans Marc 14, était connue. Et donc ce titre Abba était connu, qui est de l'araméen, qui se rapproche assez bien de papa ou bien de père. Hein, ça, on pourrait dire que Abba c'est araméen, père c'est le grec. C'est un titre qui était donc connu de la vie de prière de Jésus par les premiers chrétiens, et l'apôtre Paul était au courant, en avait entendu parler et le cite. Et c'est donc toujours très intéressant de voir comment des pièces de l'Évangile sont en fait citées ou interviennent dans les épîtres de Paul, parce que des fois on trouve qu'il n'y en aurait pas assez. Mais en fait, il faut quand même aller les chercher, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et sachant qu'il a écrit quand même beaucoup de ses épîtres avant que les évangiles soient rédigés, c'est tout à fait intéressant. Voilà, donc cette adoption fait que nous sommes fils, et l'Esprit lui-même, on continue la lecture, rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc il rend témoignage par l'Écriture. Donc c'est par l'Écriture qu'on a l'assurance du salut. Mais notre esprit, c'est là que c'est une des fois où dans ce chapitre, c'est clairement notre esprit, et là c'est le Saint-Esprit, donc les deux sont clairement distincts. Mais c'est un peu comme s'il y avait deux témoins qui confirment la chose sur la base de ces deux témoins, l'Esprit lui-même qui nous le met par écrit dans la Bible, et puis notre esprit, la conviction intérieure que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est l'assurance du salut, et c'est par l'Esprit que nous réalisons que nous sommes adoptés, c'est une fois pour toutes, et c'est de façon définitive, cette adoption, cette notion d'être fils, d'être enfant, d'être maintenant héritier, héritier de Dieu, co-héritier de Christ, eh bien, c'est une comparaison d'adoption, c'était pratiqué dans l'Empire romain, parfois c'était même des esclaves qui étaient adoptés, ou enfants d'esclaves, et puis il y avait sûrement aussi des orphelins. En tout cas, c'était une notion connue, et c'est intéressant puisque il y a un aspect juridique dans l'adoption, un aspect définitif, une fois pour toutes, dans cette nouvelle relation qui est créée. Et effectivement, c'est juridique puisque arrivent même les aspects financiers. Alors, c'est d'abord héritier, ça c'est la première chose, c'est je suis héritier, c'est extraordinaire. C'est quoi ton métier? Ah ben je suis héritier. Ah, donc j'ai reçu, voilà. Ça me concerne moi. Mais après la deuxième question, mais tu es héritier de qui? C'est qui donne? C'est Dieu. Ouh là là! Mais ça c'est extraordinaire. C'est héritier de Dieu. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il n'y a pas que les chrétiens, il y a aussi le Christ, co-héritier de Christ. Donc on voit le niveau auquel ici nous sommes amenés. Hein, donc l'adoption, c'est ça que j'ai pensé que c'est quand même intéressant de faire un sous-titre sur l'adoption, ça va très loin. C'est héritier. Héritier de qui? Mais de Dieu. Et co-héritier de Christ, donc mis, non pas au même niveau avec lui, bien sûr, mais l'héritage qu'il a lui-même acquis, l'héritage qu'il a reçu, il le partage. On est ensemble avec lui. Et on termine le paragraphe et aussi la soirée avec le si du moins. Oui, pardon, juste avant ça, héritier, donc c'est un petit peu détaillé avec Éphésiens 1 qui reprend cette notion. Nous avons espéré à l'avance dans le Christ, en qui aussi, ayant cru, vous avez été scellé du Saint-Esprit de la promesse, qui est les arts de notre héritage. Voilà, les arts de notre héritage. Donc les arts, c'est là aussi, c'est presque contractuel. Les arts, c'est je laisse quelque chose de l'argent, un dépôt, qui est vraiment la preuve que je vais remplir le contrat. Donc là, les arts de notre héritage, donc, il est la preuve qu'on va être héritier. Il est venu en nous et il nous accompagne et il sera avec nous jusqu'à la fin, Jean, on a lu dans Jean. Donc il est les arts de notre héritage, le contrat sera rempli, il n'y a pas de doute. Là, pareil, de nouveau, ça développe la notion d'assurance, de définitif, de je ne peux pas perdre le salut, parce que la question ne se pose même pas. Je suis scellé, je suis dans l'Esprit, je suis dans le Christ, eh bien, il est les arts de notre héritage, le contrat est signé, il en est la preuve, il nous a déjà donné une partie. Hein, les arts, c'est je donne une partie qui est déjà acquise et qui, bien sûr, assure que le contrat va être rempli dans ce cas-là, assure que l'héritage sera donné. Donc, pas de doute. Et puis, 1 Pierre 1, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, donc l'aspect nouvelle naissance, hein, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, inaltérable, conservé dans les cieux. Donc on a ici quatre caractères de cet héritage. Tous ces caractères sont en opposition avec un héritage, on va dire, terrestre, matériel, physique. Hein, donc incorruptible, c'est qu'il ne peut pas effectivement pourrir, il peut pas se dégrader. Sans souillure, c'est que il n'est pas basé sur des choses mauvaises. Hein, l'argent qu'on nous donne peut avoir été un peu mal gagné, éventuellement. Il est sans souillure, il est parfait, il est inaltérable ou inflétrissable. Donc ça veut dire qu'il garde toute sa beauté. Non seulement il ne peut pas être corrompu, il ne peut pas pourrir, mais en plus il garde toute sa beauté, il ne peut pas changer. Et puis en plus il est conservé dans les cieux, donc on ne peut même pas le perdre. Hein. Contrairement, donc les quatre caractères sont bien sûr des oppositions à ce que serait un héritage terrestre. Donc voilà, héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Et la fin, c'est la souffrance qui va devant la gloire. Et on retrouve le « si du moins ». Le « si du moins », de nouveau, n'est pas tant conditionnel que ça. On peut remplacer par « puisque », mais c'est une chose normale, ça va avec. Et si nous souffrons, il y aura une gloire qui va suivre. Et les choses vont ensemble. Et déjà sur la montagne, le Seigneur avait montré à ses disciples qu'il fallait que la souffrance aille devant la gloire. Les disciples auraient volontiers fait trois tentes, une pour Moïse, une pour Jésus, une pour Élie. Mais voilà, la souffrance devait aller devant la gloire. Et Luc 24, le Seigneur lui-même, après sa résurrection, ne fallait-il pas que le Christ endure ses souffrances et qu'il entre dans sa gloire? Ou bien 1 Pierre 4, réjouissez-vous dans la mesure où vous avez part aux souffrances de Christ, afin qu'aussi à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec allégresse. Donc, c'est le jackpot, héritier de Dieu, co-héritier de Christ, mais pas de surprise, il y aura aussi de la souffrance. La vie chrétienne n'est pas une vie sans souffrance, mais par contre, la gloire est devant. Et ce sera le sujet, donc, dans 2 semaines, de regarder l'espérance de la gloire, donc les versets 18 à 30, et puis de regarder ensuite aucune séparation de l'amour de Dieu, les versets 31 à 39. Je montre la bibliographie ici, utilisée avec McGee, Gebelin, Wiersbe, etc., Gerd de Koenig, Harrison, Benetro. Je vais arrêter le partage, mais je vous lis encore une chose. Je vous lis encore, et après il y a encore quelques questions, juste dans Zacharie au chapitre 4, cette vision extraordinaire où on a un chandelier qui est de toute beauté, chandelier à 7 branches, en or, celui du tabernacle, celui du temple, qui a ses 7 lampes, et les sept lampes sont alimentées en permanence par des conduits d'huile d'or qui viennent d'un réservoir d'huile qui est en permanence alimenté par deux oliviers à droite et à gauche. Et donc, on a ici un symbole extraordinaire, justement, du Saint-Esprit alimenté en permanence, qui allume ces sept lampes et qui rend très beau, bien sûr, le chandelier, parce que les lampes font que le chandelier est visible, devient très, très beau. Donc, le Saint-Esprit illumine et nous fait voir le Christ. Et puis, le verset que je voulais lire, bien sûr, qui nous concerne dans cette vie animée par l'Esprit, c'est quand, après avoir vu cette vision, mais que sont ces choses? Eh bien, c'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Tu deviendras une plaine. Donc, le Seigneur nous rappelle, par notre chapitre, et aussi ici par cette vision de Zacharie, que c'est non par force, non par puissance, c'est pas nous, mais c'est par son esprit, et qu'il peut effectivement enlever les grandes montagnes, aplanir notre vie, que ce soit une vie abondante, une vie de liberté, une vie affranchie, où on est dans l'esprit et où on vit à sa gloire.
Merci beaucoup Frédéric pour cette première soirée de présentation et cette première partie de Romains 8 avec cette belle dernière application avec Zacharie 4. On a quelques questions que je te propose de prendre pour terminer. Et avant de laisser la place à un mode de conclusion, je pense que tu as surpris certains de nos auditeurs. Je suis pas sûr que tu as été bien compris. Est-ce que tu veux répéter? Qu'est-ce que tu as
dit? Oui, je peux répéter, mais bien sûr, c'est pas le sujet de la conférence de ce soir. J'ai eu l'occasion de montrer une courbe, de faire une présentation à La Rochelle. Sans faire de mathématiques, on peut simplement se souvenir que quand une courbe est extrêmement verticale, on appelle ça exponentielle, eh bien en fait, la somme de toutes les choses sous la courbe, la surface sous la courbe est égale en fait au point où je suis tellement ça va vite. Et on peut le recalculer en se souvenant que le milliard d'habitants, il était au début du siècle dernier, hein, à peu près. Et donc, quand on en a déjà 8 ou 9, ils sont tous vivants aujourd'hui. Si vous faites le calcul et que vous partez environ avec 100 millions ou 200 millions de personnes en l'an 1, pour simplifier les calculs, vous verrez avec surprise que la somme des vivants actuels et pas très loin en ordre de grandeur, alors qu'il y en a 10 fois plus, on s'en fiche, hein, mais est pas très loin en ordre de grandeur que la somme de tous les morts depuis l'an 1. Et en fait, c'est très important aussi quand on annonce l'Évangile, puisque quand on annonce l'Évangile, on sait qu'on a un impact immense. Le monde actuel est un terrain extraordinaire, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent.
C'est important de tout temps, mais on pourrait dire que c'est surtout important à la fin. on a une autre question. Il a été dit que les mauvaises pensées de Vincent ne peuvent être supprimées. Or, Jésus nous dit que celui qui désire une femme dans son cœur, donc dans le domaine de la pensée, a déjà commis l'adultère. Comment concilier ces deux idées?
Donc, ces deux pensées très, très importantes et qui nous aident très bien à comprendre les mécanismes. Et donc, l'enseignement du Seigneur dans les évangiles nous montre bien que c'est dans les pensées que tout commence. Et le début de notre passage nous l'a montré aussi. Hein, on a mis pensée, 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 vous avez remarqué. Donc, c'est bien là que tout commence. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur nous dit que tu as déjà commis adultère en pensée qu'il faut le commettre, l'adultère, physiquement, en disant, oh, bah, puisque c'est déjà commis, on n'a qu'à y aller maintenant. D'accord ? Ce n'est pas ça. Romain nous dit, non. C'est les actes du corps, ceux-là, on va pas les laisser vivre et on va les laisser mourir. Donc, ce n'est pas parce que, malheureusement, la source du mal, elle est en nous, qu'on va laisser tout aller en croyant que ça va résoudre notre vie. Non, pas du tout. Notre vie, elle sera heureuse si on vit dans la sainteté, même si, bien sûr, on est confronté à des mauvaises pensées. Et je pense que frère il y a 200 ans disait, on ne peut pas empêcher un oiseau de tourner autour de notre tête, mais on peut empêcher qu'il fasse son nid sur notre tête. D'accord? Donc les mauvaises pensées, si elles tournent, ben, malheureusement, mais par contre, je peux refuser de les suivre, je peux refuser de les entretenir pour que ça débouche malheureusement sur des actes.
Merci. Oui. Et puis du coup, l'action de l'esprit n'agit-elle pas également sur les pensées et non pas uniquement sur nos actes?
Bien sûr, bien sûr. C'est évident que si on est occupé des choses bonnes et qu'on est occupé des choses du Seigneur dans les pensées, eh bien cela purifie aussi nos pensées. Nos pensées sont remplies du Seigneur. C'est évident que comme la source du problème est dans les pensées, eh bien si le Seigneur nous habite et que nos pensées sont tournées vers lui, forcément, ça va beaucoup nous aider.
Oui, merci pour ces réponses. Je vois encore, je suis surpris par le verbe crier en Galates 4 et ici. Pourquoi crier? J'étais en train de chercher.
Oui, c'est le crier Abba Père, c'est le fait de
Ah
crier
ouais,
à
nous crions Abba Père.
Oui. Ne sais pas. Je pense qu'il y a un côté. Il y a un côté. De la confiance, il y a un côté de la spontanéité qui va peut-être dans le cri. Voilà, on sait aussi, alors ça je ne sais pas si c'est lié à ça, on sait aussi que à Gethsémané, quand le Seigneur utilise l'expression Abba, on sait que d'après l'Épître aux Hébreux, ayant avec cri et larmes demandé au Père. Donc il y a la notion du cri, le Seigneur a exprimé aussi par des cris et des larmes à Gethsémané, peut-être d'ailleurs à d'autres moments, mais en tout cas à Gethsémané. Donc il y avait peut-être ça aussi, mais je ne sais pas. Et Mircha, alors je suis pas sûr d'avoir
C'est
compris de
juste
quel bord il
intéressant.
s'agit.
Je
Oui.
regardais la signification du terme grec, crier. Une des crasos, une des acceptions, c'est croasser. Ça fait allusion au bruit des corbeaux. Alors, je vociférer, crier à haute voix,
Donc c'est assez fort.
parler d'une voix forte. Ben, je pense que ça donne peut-être toute la force à ce cri et puis l'importance du recours à une personne plus puissante et puis la faiblesse de notre condition, je sais pas, à développer. Mircha, oui, je ne suis pas sûr d'avoir compris de quelle mort il s'agit au verset 13. Si vous vivez selon la
Donc,
chair, vous
c'est
mourrez.
évidemment difficile, hein? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Voilà. Donc, cette mort-là, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, c'est une façon de dire, le péché n'est pas anodin. Quelqu'un qui vit selon la chair, il est sur le chemin de la mort. Alors, il l'est de façon théorique, parce qu'il ressemble, il y a comme deux gouttes d'eau à celui qui n'a pas la vie. C'est le fils prodigue, tant qu'il était au milieu des cochons, il ressemble comme deux gouttes d'eau à un cochon. D'accord? Mais quand il revient, alors on a compris que c'était un fils. Alors que le cochon, lui, quand il reste cochon, on voit qu'il revient à son vomi. Hein? Donc, il y a toute une parabole entre le fils et le cochon qui se. Ça vaut le coup d'écouter la méditation du frère McGee, c'est extraordinaire. Alors, le fait d'être. D'être mort, ça veut dire ici je suis sur le chemin de la mort. Mais c'est aussi plus pratique que ça. C'est pas que théorique, c'est aussi pratique. Et donc c'est ce que j'ai expliqué, c'est que ça peut conduire à une mort prématurée, mort physique prématurée, soit par conséquence évidente. Hein, je prenais l'exemple, ben, si je me drogue et que je fais une overdose, ben oui, c'est la mort prématurée, c'est la suite de mon péché. Si je suis sur un champ de Raymond de Conte dans la rue avec des Kalachnikovs, ben oui, je vais en prendre une balle. Ou bien c'est peut aussi être la mort prématurée disciplinaire de Dieu qui peut intervenir pour me dégager, pour me faire sortir, on va dire, du champ, parce que voilà, parce que je suis complètement à côté de la plaque. Et donc, ça n'est pas du tout la mort éternelle, bien sûr, pas du tout, rien à voir. Et est-ce qu'il s'agit justement de cette mort qui vivifie? Non, non, je ne crois pas. Au verset 11. Non, je ne crois pas. Au verset 11. Non, non. Au verset 11, celui qui est vivifié quand on va être vivifié d'entre les morts, ça c'est vraiment pour moi le miracle de la résurrection des corps des chrétiens morts ou bien de leur vivification pour qu'ils ne soient plus mortels. Ça, c'est la distinction de 1 Corinthiens 15 sur le fait d'être soit mortel, soit d'être putrécible. Comment c'est pas ça? C'est soit mortel, soit corruptible. Voilà. Donc, les deux classes, c'est soit je suis mortel, c'est quand je suis vivant, soit je suis corruptible, c'est si je suis déjà enterré. Hein? Et dans les deux cas, j'ai besoin d'être vivifié, ressuscité.
Bah, écoute, un grand merci Frédéric. Je vais laisser Marco conclure. Je mentionne juste, je crois que c'est la première fois à Biblos que quelqu'un nous mentionne le frère McGee. Du coup, pendant que tu parlais, j'ai fait quelques recherches. J'ai vu qu'il était formé au Theological Dallas Seminary, donc c'est une bonne référence, évidemment. Il a écrit un commentaire de toute la Bible, si j'ai bien compris, de
Non,
Genèse à l'Apocalypse.
oui, mais c'est pas tellement son écrit qu'il faut, c'est son audio. En
OK.
fait, il couvre la Bible entière en 5 ans
Voilà.
et il le fait dans 200 langues, donc c'est extraordinaire. Et
OK.
quelqu'un qui aime l'anglais, au début, va être agacé affreusement par son américain du Tennessee, mais après quelques séances, il pourra plus s'en passer.
Okay. Ben merci, en tout cas, moi, de m'avoir fait découvrir Maggie, je ne connaissais pas.